Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Patience Ngalula. D'abord les titres de ce journal. Après les élections législatives et provinciales organisées à Massimanimba dans l'ex-Bandundu, l'heure est au dépouillement et les bureaux des votes affichent les résultats encore provisoires. Nous irons sur place pour connaître l'ambiance qui y règne. Des réactions fusent de partout après la tripartite annulée de Luanda entre les présidents congolais, rwandais et angolais. Nous suivrons le point de vue des ministères angolais des Affaires étrangères. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple. Les électeurs et les candidats des circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi appelés à attendre les résultats des élections dans les calmes. L'appel est lancé par Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la CENI. Il est notre invité. Bienvenue à ce journal. Les bureaux des votes de la cité et du territoire de Massimanimba affichent depuis des petites heures du matin les résultats encore provisoires obtenus par chacun des candidats ayant participé à ces processus. Des candidats, témoins, observateurs et curieux passent bureau par bureau pour se rendre compte des résultats obtenus par leurs candidats ou adversaires politiques. Notre envoyé spécial, Blaise Makassi, a fait la ronde des bureaux des votes de Massimanimba. Voici son reportage.
La pluie qui est tombée sur la ville de Massimanimba n'a pas empêché les électeurs de se rendre dans les différents centres de vote où sont affichés depuis ce lundi matin les résultats des votes du dimanche. Même dans les bureaux qui ont clôturé tard, les résultats sont prêts. Des candidats et témoins, partagés entre joie et déception au vu des résultats provisoires, savent à quoi s'attendre. La CENI, elle, dans son calendrier réaménagé des reprises des élections législatives nationales et provinciales, dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma, avait programmé pour le 23 décembre l'annonce des résultats provisoires. Ces élections, il faut le rappeler, se sont déroulées dans le calme et sans incident majeur. La société civile de Massimanimba regrette quant à elle, à la suite des résultats affichés, le faible taux de participation. Rappelons qu'hier dimanche, certains électeurs disposant des cartes d'électeurs ou des duplicata sont rentrés frustrés parce qu'ils n'ont pas voté. Leur nom n'était pas repris sur les listes électorales. Les élections de décembre 2023 dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et Yakoma ont été annulées à la suite des violences et fraudes électorales. Depuis Massimanimba, Blaise Makassi, Radio Kapi.
Un rapport toujours avec les élections de Massimanimba. La mission d'observation électorale Regard Citoyen a noté ce dimanche la présence des observateurs électoraux dans tous les bureaux des votes lors des législatives nationales et provinciales à Massimanimba, dans les Kwilu et à Koma, dans le Nord Ubangi. Cette structure a fait ses constats dans un communiqué dont une copie est parvenue ce lundi à Radio Kapi. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La mission d'observation Regard Citoyen affirme avoir déployé une centaine d'observateurs pour les élections reprises dans les territoires de Massimanimba et celui de Yakoma. Et selon les rapports, 38,5% des électeurs se sont vus refuser l'entrée dans les bureaux de vote du fait de l'absence de leur nom sur les listes électorales. Dans ces deux territoires, a fait savoir cette organisation citoyenne, 3,8% des bulletins de vote n'ont pas été systématiquement signés par les présidents et les secrétaires des centres, alors que les noms des électeurs n'ont pas été vérifiés sur les listes avant de leur remettre le bulletin de vote. 78,8% des personnes détenant des cartes d'électeurs lisibles et dont les noms ne figuraient pas sur les listes électorales n'ont pas pu voter. C'est le Regard Citoyen, des électeurs ayant reçu des duplicata et dont les noms ne figuraient pas sur les listes n'ont pas pu également voter, de même ceux qui avaient des cartes d'électeurs illisibles. Cette structure a également révélé que les noms des témoins ont été vérifiés avant de les remettre le bulletin de vote dans 59,6% des cas, alors que 5,8% des bureaux de vote ont connu des interruptions pendant les scrutins à raison des dysfonctionnements des dispositifs électroniques de vote.
Ici à Kinshasa, la session ordinaire de septembre s'est achevée hier dimanche conformément à l'article 117 de la Constitution avec une production législative tant qualitative que quantitative des textes de loi et du contrôle parlementaire. Au cours de la cérémonie officielle de clôture, le président de l'Assemblée nationale a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session. Vital Kamerhe les a en outre invités invité à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est ici le lieu de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence João Lourenço, Président de la République Sœur d'Angola.
Entre-temps, au Kasaï central, l'édit budgétaire pour 2025 est déclaré recevable par l'Assemblée provinciale. Il est chiffré à 390 milliards de francs congolais. Les députés provinciaux l'ont adopté à l'unanimité au cours d'une plénière consacrée à l'examen de cette prévision budgétaire de recettes et dépenses dès l'année prochaine pour la province. François Kadima nous en dit plus.
Avec un taux d'accroissement de 10% par rapport au budget de l'exercice passé, cet édit définit les recettes et dépenses pour un plan de développement du Kasaï central. Ces prévisions tiennent compte des recettes locales, nationales et la contribution des partenaires. Elles se basent également sur des projets d'investissement dans les infrastructures, agriculture, santé, éducation et autres. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambourou, s'est dit satisfait de la recevabilité de cet édit budgétaire, soulignant que certaines lignes peuvent être revues ou améliorer pour aider le Kasaï central à décoller. Envoyé par la plénière à la commission ECOFIN après sa recevabilité, cet édit budgétaire de 2025 passera au toilettage et devrait être adopté article par article, a souligné le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Je le disais en titre, la tripartite tant attendue entre le président congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço, prévue ce dimanche à Luanda pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été annulée. En cause, l'incapacité de la RDC et du Rwanda à s'accorder sur un engagement en faveur de pourparlers directs entre Kinshasa et la rébellion du M23, une condition exigée par Kigali mais fermement rejetée par Kinshasa. Dans un communiqué publié hier dimanche, le ministère angolais des Affaires étrangères rapporte que le président João Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour cette crise, s'est dit profondément préoccupé par la situation. Il exhorte les partis à prioriser l'intérêt de leur peuple ainsi que leurs objectifs communs. Martial Papi Mukeba nous en dit plus.
D'emblée, les communiqués précisent que le sommet avait pour objectif d'examiner les rapports d'étape, lesquels mettaient en lumière les principaux résultats obtenus dans le cadre des négociations menées depuis mars 2024 par les ministères des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola. Il s'agissait également de discuter du projet d'accord de paix présenté en août 2024 par les facilitateurs João Lourenço. Cependant, les communiqués soulignent que lors de la réunion ministérielle du 14 décembre 2024, des divergences majeures ont été relevées sur la question du M23, dernier obstacle à l'adoption et à la consolidation de l'accord de paix. Le président João Lourenço exprime son inquiétude face à l'absence de consensus sur ce point crucial, regrettant que l'une des parties ait demandé le report du sommet à la dernière minute. Les facilitateurs s'alignent néanmoins les avancées majeures sur plusieurs points, les cessez-le-feu, la neutralisation des FDLR, l'opération du mécanisme de vérification ad hoc et l'approbation du concept d'opération CONOPS. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et puis, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a salué dimanche la présence du président honoraire kényan Uhuru Kenyatta à Luanda, en Angola. Il a exprimé sa satisfaction lors du briefing de presse tenu avec son collègue de la communication et des médias à Kinshasa. Elle a également indiqué que la venue de l'ex-président kényan va faciliter la redynamisation du processus de Nairobi en vue de résoudre la question des groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Les propos de Thérèse Kayikwamba, recueillis par Blaise Ndonga Lamayanda.
Maintenant, le président Uhuru Kenyatta est à nouveau mobilisé et en échange direct avec le président Tshisekedi, mais aussi avec le président Lorenzo, parce que la question des groupes armés locaux et des passerelles, si vous voulez, entre le combat armé et la vie civile est de plus en plus importante pour la République démocratique du Congo et que nous voulons mettre l'emphase là-dessus. En même temps, le processus de Nairobi est redynamisé, il est dynamique et il offre justement des perspectives pour les groupes armées actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Et il a évidemment un caractère complémentaire, si vous voulez, à certains aspects du processus de Luanda. Et donc nous nous réjouissons aussi du fait que le président Kenyatta était présent à Luanda, parce que ça nous montre aussi que ces deux présidents, le président Lorenzo et le président Kenyatta, sont prêts à travailler ensemble pour des solutions durables à la crise en République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, un calme précaire est observé depuis ce matin sur les différentes lignes des fronts opposant le FRDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud du territoire de Lubero. Depuis hier dimanche, les rebelles occupent la localité de Matembe, située à environ 60 km au sud de Lubero centre, chef-lieu du territoire. Cependant, des sources locales signalent un renforcement en hommes et en matériel des deux parties, faisant craindre une reprise imminente des combats entre l'armée congolaise et les rebelles. En Ituri, 3 personnes membres d'une famille ont été tuées et 2 autres grièvement blessées par machette ce lundi matin à Ledza, dans la périphérie des Fataki, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces miliciens se sont introduits dans la maison des victimes en tirant des coups de balles. Les blessés, dont une femme de 32 ans, sont admis aux soins dans une structure médicale à Fataki. La population composée essentiellement des agriculteurs vit dans une psychose et les activités agricoles sont presque paralysés. À Goma, environ 400 jeunes volontaires s'engagent à lutter contre les incendies récurrents que connaît la ville. C'est à l'issue d'une série de formations en cascade des 6 mois qu'ils ont bénéficié, leur permettant d'acquérir des compétences nécessaires pour intervenir efficacement. Denis Lukeso pour les détails.
Ils sont maintenant présents, ces jeunes volontaires engagés dans presque tous les quartiers de la ville de Goma, prêts pour intervenir en cas d'incendie. Force est cependant de reconnaître qu'ils ne disposent pas d'équipement ni de matériel adéquat. L'un de leurs responsables, Luanzo Matumbo Gédéon, souligne les besoins urgents de soutien en équipement adéquat.
Nous avons constaté de vide dans les attributions de sapeurs-pompiers. Nous, du point de vue logistique, en tout cas, nous n'avons pas de matériel, une chose en tout cas qui nous freine dans nos actions. Si on avait ces matériels, on devrait normalement mieux prester. Notre souhait est que ces sapeurs-pompiers qui ont y œuvré volontairement pendant tout ce temps et qui ont y assimilé de formation, que le gouvernement puisse voir cela et qu'ils soient équipés et qu'ils soient engagés par l'État, afin qu'ils puissent prester en tant que des sapeurs-pompiers dignes de ce nom.
La ville de Goma est dotée de 2 véhicules anti-incendie pour couvrir 18 quartiers. Actuellement, un seul est fonctionnel. Notons que cette mobilisation de la jeunesse intervient après le lancement des travaux de construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à Goma par le gouverneur de province la semaine dernière au quartier Kasika. C'est dans le cadre de la modernisation du service de la protection civile. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a approuvé ce dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État après un processus de médiation de près d'un an visant à éviter une désintégration sans précédent de l'organisation. L'autorité décide de fixer la période du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant cette période de transition à déclarer déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touray. Lors de l'ouverture du sommet, Touray a qualifié cette sortie de décourageante. Les Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante.
L'invité.
Les électeurs et les candidats des circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Oubangui sont appelés à attendre les résultats des élections du dimanche 15 décembre dans les calmes. L'appel est lancé par Jean-Baptiste Itipo, directeur des communications de la Commission électorale nationale indépendante à la clôture des opérations des votes. Jean-Baptiste Itipo est interrogé par Blaise Makassi.
Jean-Baptiste Itipo, bonjour. Les électeurs de Massimanimba et Yakoma ont été convoqués hier dimanche pour élire leurs représentants. Quelle évaluation faites-vous de ces opérations à la fin de cette journée?
Merci pour les questions. Comme annoncé dans les calendriers rendus publics le 2 octobre 2024 par son Excellence le président de la CENI, Denis Kadima, la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Obangui a été effective ce dimanche 15 décembre 2024. En effet, les bureaux de vote ont été ouverts à 6 heures. Donc, avant la fin de la journée, le président de la CENI a fait une évaluation au cours de laquelle il a dit clairement que le processus évolue normalement sans faille. Et donc là, c'est à mettre vraiment à l'actif du management de la CENI.
Quels ont été les principaux problèmes auxquels les différents bureaux de vote, mais aussi le personnel de la CENI ont fait face?
Les problèmes auxquels les différents bureaux de vote et le personnel de la CENI ont fait face, c'est notamment, vous savez, tout début pose parfois problème. À certains endroits, on a rencontré des problèmes mineurs d'ordre technique dû au fait que les collègues qui sont sur terrain et qui ont été formés, parfois n'arrivaient pas à adapter la machine à la date du jour. Ce qui a fait que beaucoup de bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, comme je viens de le dire. Mais il y en a 2, 3 ou 4 qui ont ouvert à 6h10, 6h15 ou 6h20. Mais dans tous les cas, tous les bureaux de vote sont opérationnels.
Quelles ont été les spécificités de chacune de ces circonscriptions électorales?
Les spécificités de chacune de ces circonscriptions électorales est due au fait que la circonscription électorale de Massimanimba compte 10 secteurs et la et 2 ou 3 communes rurales. Par contre, la circonscription électorale de Yakoma compte 3 secteurs et la commune également rurale. Ici comme ailleurs, la CENI avait procédé par une vaste opération d'affichage et de consultation des listes électorales provisoires, une vaste opération de délivrance et de duplicata jusqu'au niveau des bureaux des secteurs et à l'antenne de la CENI, ce qui a permis à un grand nombre d'électeurs de pouvoir participer au vote ces jours, mais aussi il y a la cartographie opérationnelle qui a été actualisée.
Dernière question, Jean-Baptiste Itipo. Quelles sont les prochaines étapes de ce processus et que recommandez-vous aux candidats et à leurs sympathisants?
Les prochaines étapes, c'est l'étape la plus importante que nous attendons tous, c'est la publication des résultats provisoires par le bureau ou l'Assemblée plénière de la Commission électorale de la CENI, qui pourra intervenir incessamment si les choses évoluent très bien au niveau du terrain et que si tous les déploiements s'effectuent au niveau des bureaux de vote. Après la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI, va s'ouvrir alors une période de contentieux des résultats devant les juridictions compétentes et après il y aura la publication des résultats définitifs. Voici donc brièvement les étapes prochaines par rapport à ces scrutins. Aux électrices et aux électeurs ainsi qu'aux candidats, partis et règlements politiques, ils doivent attendre dans le calme la publication des résultats provisoires par l'Assemblée plénière de la CENI. Mais il faut saluer également le fait que les uns et les autres ont fait preuve de comportement citoyen afin de permettre un déroulement harmonieux des scrutins de ces jours à Massimanimba et à Yakoma.
Jean-Baptiste Itipo, merci.
Merci.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Okapi. Alain Goy a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Martin Sebudjangwe et Élisée Chikota Chivueta. À la présentation, Patience Galulambombo. Merci à vous tous de l'avoir suivi.